Il est écrit dans la Guémara que le Machar est appelé le lépreux. Il est écrit là-bas que le Machar se trouve aux portes de Rome et il est couvert de pansements. Et au lieu de faire comme tous les autres malades qui enlèvent tous leurs pansements en une seule fois et qui se nettoient les plaies en une seule fois, le Machar il enlève un pansement par pansement et il nettoie chaque plaie. Et la Guémara explique que c'est dans le cas où Dieu lui demande de venir délivrer le peuple juif, alors il sera prêt immédiatement. Donc on voit déjà, à partir de ces révélations de la Guémara, que le Machiar, il pense plus au peuple d'Israël, à sa délivrance, qu'à lui-même. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, le fait qu'il soit recouvert de plaies et qu'il soit appelé le lépreux, ça nous renvoie à un enseignement du Maharal de Prague qui explique que de la même façon que les lépreux, ils étaient mis hors du camp, donc ils sont à l'extérieur du camp, et qu'en général, les gens qui sont atteints de ce mal, on voit ils font plus partie quelque part du monde dans lequel on vit, donc ils sont à l'extérieur du monde. Et le Maharal de Prague explique que le Machar, c'est exactement la même chose, il est hors de ce monde matériel. Il vit uniquement dans un monde spirituel, c'est-à-dire qu'il attache vraiment toute l'importance de l'existence, elle est liée au monde spirituel. Donc ça, c'est un deuxième point. Maintenant, quand on parle du Machiar et de ses tâches de lèpre, on doit savoir que cette maladie, la maladie de la lèpre, elle cache en réalité une très très grande lumière. Le rabbi, dans le Dvar Malchut, il ramène un enseignement de son père, dans lequel il explique que la valeur numérique du mot Ametsora, ça signifie le lépreux, elle est égale à 411, exactement comme la valeur numérique du mot Tohu. Et Tohu, ça désigne des lumières très très élevées. Alors pour introduire un des enseignements du rabbi sur la lèpre, c'est bien de citer un exemple matériel, mais en fait de regarder l'animal, le léopard. Le léopard, d'abord, il est tacheté aussi, donc il y a une allusion ici aux taches de lèpre. Et surtout, ce qui est intéressant chez cet animal, c'est que c'est un animal qui a une volonté vraiment féroce, qui n'abandonne jamais sa proie. Donc ça, c'est une particularité du léopard, parce qu'on dit de lui qu'il a des attaques foudroyantes. Et s'il n'arrive pas à avoir sa proie du premier coup, alors il abandonne pas, il récupère un petit peu et il s'acharne jusqu'à obtenir sa proie. Et ce qui est intéressant dans sa façon de chasser, c'est que contrairement aux autres prédateurs comme le guépard par exemple, on voit par exemple que le guépard quand il arrive à attaquer une proie et qu'il commence à la manger, il reste comme ça à l'endroit où il a tué sa proie. Et il commence à manger, et en fait, il y a les vautours qui commencent à tourner au-dessus de lui, au-dessus de sa tête, et qui repèrent, donc justement, la proie du léopard, et qui attendent patiemment que le léopard, il abandonne cette proie pour venir manger. Mais les vautours, en fait, eux-mêmes, ils se font remarquer, et si un lion, il voit comme ça dans le ciel des vautours qui tournoient, il comprend qu'il y a une proie qui se trouve juste en dessous. Et quand le lion se dirige vers cette proie, alors le guépard, il est obligé d'abandonner la proie au lion. Et ça, c'est une chose que le léopard ne fait pas, parce que c'est connu que le léopard, quand il arrive à obtenir une proie, donc il va prendre cette proie et il va la porter sur une branche, il va grimper sur un arbre et il va manger l'animal assis comme ça sur la branche, juste pour ne rien laisser aux autres prédateurs. Et donc ce point-là, il est intéressant parce que c'est lié avec un des enseignements du rabbi. Puisque le fait de ne rien laisser aux prédateurs, ça rappelle un enseignement de la Chassidoute qui dit qu'il y a parfois ce qu'on appelle yenikat achitsonim, c'est-à-dire que les clipotes, elles vont se nourrir de la kedusha, de la sainteté. Et d'une certaine façon, le guépard qui finit sa proie perchée sur une branche, la branche d'un arbre, ça nous fait penser justement à un homme qui va agir et qui va accomplir les commandements divins de manière à ne rien laisser à l'autre côté de la sainteté. Et ça, c'est précisément un point d'un exemple qui est donné par le Rabbi pour expliquer à quoi correspondent les tâches de lèpre. Le Rabbi, il explique que quand un juif, il se met à prier, et pendant la prière, par exemple pendant la prière de Shacharit, quand il va commencer à lire Psouké des Imra, qu'il va faire des louanges à Hachem, puis il va parvenir à la prière du Shema, et là il est censé révéler dans son cœur l'amour de Dieu. Et donc quand il va s'acharner à réveiller cet amour pour Dieu tout au long de sa prière, il va dévoiler en lui-même un grand amour pour Dieu et en fait une grande lumière. Et cette grande lumière, elle provient d'un mouvement du bas vers le haut, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle ratso, la volonté de l'âme juive qui s'élève sans cesse vers le haut, exactement comme la flamme d'une bougie qui s'élève vers le ciel en permanence. Ça, c'est l'Admor HaZaken qui nous explique ça, qui nous explique que l'âme juive, elle est comparée à une flamme qui tend à vouloir quitter la mèche qui la retient pour aller se fondre, pour aller rejoindre sa source, la source du feu qui se trouve sous la lune. Donc la flamme, elle est tout le temps dans ce mouvement vers le haut et elle tend toujours à s'élever vers le haut. De la même façon, quand un juif il va prier et qu'il va dévoiler en lui-même et dans son cœur par le fait de méditer à la grandeur de Dieu, par le fait de dire des louanges, il va dévoiler un amour pour Dieu très élevé, et en fait l'amour ça correspond à l'élément de feu, et cet amour-là, ce feu sacré qui dévoile donc pendant la prière, c'est le mouvement de ratso, c'est-à-dire de la volonté de l'âme de s'unir en Dieu. Et le principe qui est donné par le Rabbi, c'est que quand on a terminé notre prière, on doit à tout prix faire descendre cette lumière-là, cet amour-là, dans un réceptacle, dans un keli. C'est-à-dire, c'est le mouvement de Shov, c'est un mouvement du haut vers le bas. Cet amour qu'on a ressenti pendant la prière, il doit se dévoiler maintenant dans un réceptacle. Et quel est le réceptacle capable de contenir cet amour pour Dieu ? Ça peut être l'étude de la Torah elle-même, le fait d'étudier la Torah juste après la prière, ou bien un acte, une mitzvah, le fait d'accomplir un commandement divin. Donc on voit que l'étude de la Torah ou l'accomplissement d'une mitzvah, ce sont des réceptacles qui vont contenir cette grande lumière qu'on a réussi à dévoiler pendant la prière. Alors le Rabbi nous enseigne ici que si on parvient à faire vraiment un réceptacle, si on étudie la Torah ou si on accomplit un commandement divin juste après la prière, alors c'est très bien. C'est-à-dire qu'on fait de nous-mêmes une demeure où réside l'essence divine, où on fait de ce monde et de nous-mêmes une demeure pour Dieu. Mais si on ne fait pas de réceptacle, si après la prière, tout de suite après notre prière, on s'investit dans nos activités, on pénètre à nouveau dans ce monde matériel, sans avoir fait de réceptacle qui a contenu cette lumière qu'on a réussi pourtant à dévoiler pendant la tfila, alors les taches de lèpre apparaissent sur la peau. Ça signifie que cette lumière-là, qui était au départ une lumière de Kedusha, elle va tomber de l'autre côté de la sainteté. Ça s'exprime de quelle façon ? Le Rami nous dit que si on ne fait pas de réceptacle après la prière, alors on va ressentir vis-à-vis de son prochain une vive intolérance, et même qui peut même aboutir à de la colère. C'est-à-dire que ce qui était au départ du côté de la sainteté, ça va tomber de l'autre côté de la sainteté, puisque l'amour pour Dieu, on a dit, c'est l'élément de feu, c'est l'élément d'un feu sacré, mais la colère elle-même, c'est le contraire. C'est vraiment, ça appartient au domaine de la Touma. Et donc, c'est le fait de ne pas avoir agi comme il convient, le fait de ne pas avoir fait de réceptacle, alors la lèpre apparaît, ça signifie que cette lumière-là, elle va tomber de l'autre côté, elle va nourrir des clipotes. Et ça, c'est le principe qu'on a dit au départ, c'est pour ça qu'on a cité l'exemple du léopard. Le léopard, il monte sur une branche, il dévore sa proie, et il laisse rien au prédateur. De la même façon, un juif, il doit monter sur une branche, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il doit faire un réceptacle pour contenir cette lumière qu'il a réussi à dévoiler pendant la prière, de manière à ce que cette lumière-là, elle reste dans le côté de la sainteté, elle reste du côté de la Kedusha. À partir de cet exemple, on peut comprendre pourquoi les lettres du mot néga, néga ça représente, ça signifie la tache, vraiment la plaie de la lèpre, ces mêmes lettres du mot néga, dans un autre ordre, elles forment le mot oneg, le plaisir. Donc on voit que les lettres du mot néga et les lettres du mot oneg, ce sont exactement les mêmes lettres. C'est-à-dire qu'on voit que la possibilité est donnée à chaque juif de, ou bien de vivre le oneg, c'est-à-dire vraiment de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc là, il parvient même à dévoiler le oneg, le plaisir de Dieu, et aussi à dévoiler le oneg, le plaisir en lui-même. Ou bien, que Dieu nous en préserve, cette lumière-là, elle va être renversée du côté de l'impureté, et à ce moment-là, ça devient néga, une plaie. Donc le choix est donné à l'homme, la possibilité est donnée à l'homme d'agir et de faire basculer vraiment toutes ces actions du côté de la sainteté. Ce principe, le principe de ratso veshov. Ratso, c'est la volonté de l'âme de s'élever vers le haut, et shov, ça représente le travail qu'on doit accomplir pour recevoir cette lumière, cette kdusha, et dans un réceptacle qu'on va forger, comme on l'a dit, que ce soit par l'étude de la Torah ou par l'accomplissement des commandements divins. Donc c'est la différence qui existe entre le lien qui existe entre le monde de Tohu et le monde de Tikkun. Le monde de Tohu, ça représente des lumières extrêmement élevées. Et le monde de Tikkun, c'est le fait d'accomplir, de forger des réceptacles pour contenir cette lumière. Et quand on parvient à l'union de ces deux niveaux-là, alors on atteint la perfection. C'est l'enseignement du Rabbi Rayat, c'est l'enseignement de la Chassidut qui nous apprend à faire l'union entre les deux. Et surtout, le point qui est donné par le Rabbi Rayat, c'est de comprendre que Shov, la faculté de faire un réceptacle là, c'est lié à notre soumission, c'est lié au Bitoul. Encore une fois, on voit que la soumission par rapport au Rabbi, par rapport à ses enseignements, c'est ça qui va nous permettre de faire des réceptacles capables de recevoir les plus hauts dévoilements. Aujourd'hui, c'est le 11 Nissan, c'est le jour de l'anniversaire du Rabbi, et de nombreux Mashpi'im ont dit partout dans le monde, depuis hier soir, pendant de nombreux Farbrengen qui ont lieu dans le monde entier, l'accent il est mis sur le fait que l'anniversaire du Rabbi, ça représente aussi l'anniversaire de chaque Juif. Pour quelle raison? Parce que justement, chaque Juif, il est lié au Rabbi d'un lien qui est essentiel. Donc quand on parle de le jour d'anniversaire du Rabbi, on parle du jour d'anniversaire de chaque Juif. Et si on se rapporte à un commentaire de Rashi qui a écrit au sujet de la naissance de Moshe, il a écrit que quand il naquit Moshe, toute la maison s'emplit de lumière. C'est écrit dans le traité Sota. Donc la maison qui s'emplit de lumière, c'est effectivement la maison où Moshe Rabbeinu est né, mais on doit comprendre aussi que ça ne désigne pas seulement la maison où Moshe est naquit, mais ça représente aussi la maison d'Israël. C'est-à-dire que Moshe, il va éclairer tous les enfants d'Israël. Comme on le sait, il est lui-même la tête, Rosh Bene Israël, Rabbi, et les enfants d'Israël sont les pieds de Moshe. Et donc, comme on voit que la tête dirige et elle illumine chaque membre du corps à chaque génération, il y a un Moshe, Itpashtuta de Moshe, pour reprendre l'expression d'Arabi Shimon Bar Yochai, qui guide et illumine l'âme du peuple d'Israël. Donc, on voit ici que le jour de l'anniversaire de Moshe, il exprime de manière parfaite le lien qui existe entre le Rabbi lui-même et tous ses chassidim, tous les membres de l'Assemblée d'Israël. L'Admora Emsaï a déclaré un jour au sujet du Mashiach qu'il agira pour celui qui l'attend. C'est-à-dire que le Mashiach révélera le plaisir infini à ceux qui l'attendent et souhaitent sa venue. Comme il est dit, s'il tarde, sois patient. Donc cette attente, elle doit s'emplir d'espoir en sa venue. Comme il est dit, voici, c'est notre Dieu, nous avons placé notre espoir en lui et notre âme l'attend. Il est dit au sujet du Mashiach que Mashiach s'assoit parmi les pauvres. Donc on voit la simplicité. D'un côté, on voit que Mashiach, comme on l'a dit, c'est un être qui est séparé de ce monde, donc qui est au-dessus de ce monde. Et en même temps, on voit chez le Rabbi cette capacité à descendre dans ce monde, à se mettre à la portée de chaque juif, quel que soit son niveau. Et donc il est écrit au sujet du Mashiach que Machiach s'assoie parmi les pauvres. Et de là, on comprend cette capacité que possède le rabbi de donner la richesse aux pauvres, justement, de leur donner l'enseignement de la chassidoute. Mais Machiach s'assoie parmi les pauvres, ça fait aussi référence à cette lumière, aux lumières de Tohu, qui s'assoit, qui descendent et qui s'habillent dans Malchut. Malchut, elle est appelée la pauvre, puisqu'elle possède rien de par elle-même, elle reçoit de sa lumière de toutes les autres séphirotes. Donc, Machiach s'assoit parmi les pauvres, ça désigne ce moment où toutes les plus hautes lumières, la lumière de la délivrance, elle va s'habiller dans la séphira de Malchut, qui est appelée la bouche de l'Éternel, et à ce moment-là, la parole de Dieu, elle va se dévoiler, elle va dévoiler son passé dans ce monde, et à travers cette parole, va apparaître la délivrance finale. Donc, en ce jour du 11 Nissan, évidemment, le sentiment qui doit dominer en nous-mêmes et qui doit s'exprimer dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, c'est celui de la joie, de la simpra, de la profonde simpra qu'un juif y ressent du fait que son âme est enracinée dans l'essence divine. Et précisément, c'est le rabbi qui dévoile l'essence de cette âme. Et c'est par notre attachement au rabbi, par le fait de se situer dans ces quatre coudées, de se tenir dans ces quatre coudées qui va dévoiler l'essence de notre âme et qui va dévoiler le plaisir infini que l'âme ressent du fait d'être enracinée dans l'essence divine. Et ce plaisir infini, il doit illuminer nos pensées, nos paroles et nos actes. Et à ce moment-là, tout ce qu'on accomplira, Bezrat Hashem, ça réveillera le désir de Dieu de se dévoiler enfin dans ce monde avec le dévoilement du Machiach. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Umevoar.